Bonsoir Rémi, et une fois n'est pas coutume, je commence avec une date.
Oula.
1938, c'est la date de création de la SNCF. Alors j'avais envie de vous parler d'une lutte un peu connexe à celle qui est défendue ici, celle qui concerne la réforme de la SNCF. Alors je ne vais pas vous parler du statut des cheminots, pour la simple raison que je ne pense pas être le mieux placé pour le faire. Non, je vais vous parler d'un autre versant du rapport Spinetta, celui qui guide la réforme actuelle, et qui concerne l'ouverture à la concurrence de la SNCF prévue pour 2020.
Revenir en 1938.
Oui, parce que le principe de concurrence sur les chemins de fer, celui qu'on veut remettre en place, justement, a été aboli avec la création de la SNCF en 1938. La création de la SNCF comme société à capitaux publics, c'est-à-dire que c'est une société comme toutes les autres, sauf que 51% des actions appartiennent à l'État. Avant 1938, le transport ferroviaire était partagé en France par plusieurs compagnies privées et quelques morceaux publics. Ces différentes compagnies construisaient des rails et faisaient rouler des trains sans trop se coordonner. Dès les années 1880, le constat a été fait de la très grande inefficacité de ce mode de gestion. Les compagnies perdaient beaucoup d'argent, le maillage était chaotique, on avait des lignes en doublon, d'autres lignes nécessaires n'étaient pas construites, à tel point que le déficit des différentes compagnies ferroviaires atteignait en 1938 plus de 37 milliards de francs, un chiffre bien plus conséquent que le déficit actuel de la SNCF, si on le rapporte au budget de l'État.
Et c'est donc face à une telle situation que le Front Populaire a décidé de faire de la SNCF une société publique.
Oui, mais attention, ce n'est pas le Front Populaire de Léon Blum, celui des congés payés qui l'a fait, mais le Front Populaire de Camille Chautetan, avec un gouvernement très nettement recentré à droite et dont l'objectif affiché était le redressement de l'économie et l'équilibre du budget. Ça ne vous rappelle rien comme genre de slogan ? Il faut donc avoir en tête que la création de la SNCF a probablement moins eu lieu pour promouvoir un service public que pour répondre à un problème d'efficacité. Le rail, effectivement, est ce qu'on appelle en économie un monopole naturel, c'est-à-dire qu'il n'est efficace, il n'est pas efficace si plusieurs entreprises coexistent sur le marché. La raison est assez simple. En matière ferroviaire, il existe un différentiel immense entre le coût fixe, c'est-à-dire les coûts d'infrastructure que sont la construction des voies et des gares, qui sont très élevés, et le coût variable, celui de la mise en circulation des trains. Pour qu'une entreprise puisse rembourser toutes les dépenses qu'elle fait en coût fixe pour construire les voies, elle doit s'accaparer toutes les ventes du marché pour le rembourser. Imaginez par exemple qu'il y ait deux SNCF avec toutes les voies en double, et que si on imagine que les usagers se répartissent également entre les deux, cela voudrait dire que chacune des deux SNCF vend deux fois moins de billets, fait circuler deux fois moins de trains, et du coup fait deux fois moins de bénéfices, ce qui ne suffirait pas à rembourser les frais qu'elle a avancés pour construire les voies. Ce n'est pas viable.
Enfin, Robin, il me semble que l'ouverture à la concurrence concerne la circulation des trains et donc pas le réseau ferré lui-même.
Effectivement, l'idée du rapport Spinetta sera plutôt que la SNCF loue, entre guillemets, ses rails à d'autres compagnies. Dans ce cas, la question de l'efficacité se pose dans des termes différents. Et alors la vraie question, c'est l'efficacité pour qui ? Je suis assez étonné d'entendre des associations d'usagers se positionner fortement en faveur de l'ouverture à la concurrence. En effet, c'est pas sûr du tout que les gains d'efficacité prétendus se fassent en faveur de l'usager. J'ai envie de vous mentionner par exemple une étude de la Toulouse School of Economics, un bastion du prix Nobel Jean Tirole, qui n'est franchement pas l'économiste le plus à gauche que je connaisse. Et cette étude explique pourquoi, sur les lignes à grande vitesse en tout cas, l'ouverture à la concurrence ne résulterait probablement pas en une baisse des prix. L'idée est que le TGV fait déjà des marges très faibles et sature l'offre. Il n'y a pas d'intérêt pour de futures entreprises à venir occuper cet espace de marché puisque elles ne pourront pas faire baisser les prix et ne pourront pas proposer de nouveaux trains. Donc pour le moment, les TGV favorisent plutôt le voyageur et une ouverture à la concurrence pourra même plutôt détourner la SNCF de cet objectif historique et à la mettre à faire augmenter les prix d'après cet article de la Toulouse School of Economics. Et donc si l'efficacité n'est pas pour les usagers, pour qui est-il alors ? Eh bien c'est pour ceux qui supportent les coûts, c'est-à-dire l'État. La question n'est donc plus trop celle de l'efficacité, mais de savoir si l'État accepte ou non de subventionner la SNCF, c'est-à-dire que c'est un choix politique, à savoir est-ce que la SNCF doit être ou non un service public.
Et je pense qu'on laissera les gens dans la salle répondre leur seule présence ici. Peut-être déjà une réponse. Merci beaucoup, Robin, pour cet édito économique. Et avant de passer à la culture, on termine avec une dernière petite actualité présidentielle.